C'est la deuxième grande voyageuse qui fait son retour dans Gravel en retour, Élise Berger-Pelletier, qui était en Italie avec la Bergeron d'ailleurs, urgentologue.
Buongiorno!
Ciao, due Bella! Cappuccine. Attends, je t'ai pas allumé. Prego! Vous avez dû l'entendre pas mal, ça?
Quand même, oui.
Je me souviens, ça, c'est le mot que j'ai retenu le plus quand je suis allée. Okay, t'as passé un beau voyage?
Merveilleux.
Le retour est pas trop rough?
Non, ça va bien. Ça va quand même bien.
Le blues a pas trop rentré au poste?
J'ai pas eu le temps.
Ça avançait trop vite.
Exact.
Je suis contente qu'on te revoie, Élise. On a plein d'affaires à se jaser aujourd'hui. On va parler évidemment de rougeole. On n'a pas vraiment le choix. Là. Ça fait l'actualité au bout de ces temps-ci. Deuxième cas de rougeole à Québec. Il y a une question que j'avais envie de te poser parce que les fois qu'on en a parlé dans les derniers jours avec Véro, entre autres aux nouvelles, Denis ramenait beaucoup le fait en onde que hey, c'est de notre faute. La vaccination, c'est carrément de notre faute. Bravo les champions. C'est à cause de nous qu'on est là. Est-ce que tu oserais dire que c'est le cas?
Ben oui, tu sais que je nuance toujours ces propos.
J'adore ça.
En fait, c'est vrai que les taux de vaccination au Québec sont en diminution globalement, chez les enfants, chez les adultes, partout. Donc oui, le principe de la vaccination, ce qui est important de comprendre, c'est que si on se vaccine tous ensemble, on se protège tous ensemble. Il n'y a pas de vaccin qui protège à 100 % contre une infection. C'est à peu près impossible. Par contre, on a des taux comme le VPH, qu'on va reparler tantôt, c'est très élevé. Puis ça, c'est individuel. Mais c'est juste qu'à un moment donné, les taux de vaccination globaux sont tellement importants, ce qui fait qu'on éradique la transmission. C'est comme ça que la variole a été éteinte de la surface de la planète. C'est qu'on a réussi à vacciner tout le monde, même dans les endroits les plus reculés de l'Afrique. Et là, ça fait qu'il n'y en avait plus. Ça ne se transmettait plus et cette bébite-là est disparue. Fait que c'est la même chose pour les autres infections. Fait que dès qu'on diminue la couverture vaccinale, puis dans certains pays, ils n'ont pas accès au vaccin, on voit une recrudescence d'infection. Et ce qui fait malheureusement, c'est qu'un enfant qui va être vacciné contre la rougeole, par exemple, peut malgré tout être un petit peu plus à risque de l'attraper s'il est dans une classe, par exemple, avec un enfant qui a la rougeole.
Parce que ça, c'était l'autre question que j'avais, parce que là, on nous arrive puis on nous dit, bon, ces personnes-là ont fréquenté tel endroit, tel endroit, tel endroit, puis là, le dernier, il s'est quand même promené pour faire toutes ses commissions de Pâques, de ce qu'on comprend, là. Tu sais, nous, on fait partie de la population qui a été vaccinée. On est genre entre la vingtaine et la mi-quarantaine. Nous, on n'est pas à risque, mais est-ce qu'il y a des gens vaccinés qui sont quand même à risque? Puis que quand tu vois ça, ils devraient se dire oh, OK, le petit malaise que j'avais là, il faudrait peut-être que je le prenne en considération.
C'est toujours la même catégorie, c'est-à-dire les personnes qui prennent des médicaments pour l'immunosuppression. Donc, ceux qui ont des arthrites, ceux qui ont des cancers, puis les maladies chroniques intestinales, par exemple, les gens se connaissent, savent c'est quoi un médicament qui diminue leur immunité. On diminue l'immunité, donc tous les vaccins sont légèrement moins efficaces. La rougeole, heureusement, en fait, on est quand même bien protégé malgré tout ça. Il y a d'autres maladies, comme par exemple la coqueluche. On sait que ce n'est pas un vaccin qui est efficace à 70 %. Donc, ça fait que si, par exemple, moi, j'ai vu des épidémies de coqueluche où il y avait un enfant dans l'équipe de hockey qui avait la coqueluche, puis pratiquement tous les enfants ont eu la coqueluche. Donc, ça se transmet beaucoup plus facilement. La rougeole, c'est heureusement une des infections qu'on ne veut pas avoir, puis aussi, c'est une des infections qui est quand même difficile à transmettre si vous êtes vacciné. Habituellement, ça prend un contact étroit ou le fait que vous n'êtes pas vacciné.
C'est quoi les conséquences de la rougeole? Tu peux-tu mourir de ça? Drôle de question. Mais...
Oui. En fait, c'est... Règle générale, là, pourquoi les vaccins existent, c'était des maladies...
Pour empêcher la mort.
Oui. Règle générale, c'est pour empêcher la mort. C'est un excellent point. Ou empêcher des complications. Comme, par exemple, quand ils ont introduit le vaccin contre la varicelle, c'est... En fait, peut-être pas toi, t'as été vaccinée, Audrey?
Oui, j'ai été vaccinée, mais je l'ai eu pareil.
Mais oui, parce qu'on peut. Ma fille aussi l'a eu, mais à très faible.
Moi, j'ai pas été vaccinée, puis je l'ai pognée solidement à 14 ans, même temps que mes premières règles.
C'est ça. C'est que la varicelle, entre autres, on l'a eu, les gens de 40 ans, là, je pense que ça a été introduit, ça fait environ une 20... Ben, ça fait tout à quel âge? 20?
29.
Bon, fait que c'est ça, je partais pour dire à peu près les gens de 30 ans et moins, vous l'avez reçu. Le point étant, la varicelle, c'est entre autres que c'est une des complications, c'est que ça fait des infections sévères, ce qu'on appelle des cellulites. On a déjà eu des bactéries mangeuses de chair secondaires à la varicelle. Donc non, ce n'est pas la mort, mais c'est une complication. La rougeole, une des complications, c'est l'encéphalite. Donc c'est l'inflammation et l'infection du cerveau. Et on ne veut pas avoir un cerveau infecté. On peut en survivre, mais on peut avoir des conséquences. Donc, c'est une des raisons pourquoi on vaccine contre la rougeole. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus que ça s'étende partout.
Puis là, mettons, pour se rassurer un peu, là, les symptômes à surveiller. Là.
Le problème, c'est que la plupart des infections virales pour lesquelles on est vacciné, ça ressemble un peu à beaucoup ce que je vous dis quand on a un virus. Là. Fièvre, courbature, mal de gorge. La rougeole, par contre, qui va arriver rapidement, vous allez avoir des rougeurs à la peau assez diffuses. Puis il va y avoir aussi des petites taches qui vont apparaître dans la bouche. Mais habituellement, ça fait faire de la grosse fièvre. Là. Quand je vous parle d'influenza, entre autres, puis là, je ne veux pas que vous pensiez, mon Dieu, j'ai ça. Mais l'influenza, ça donne une grosse fièvre à 39-40. Les gens sont vraiment moches. Là. Rougeole, le début des symptômes, c'est la même chose.
Fait que là, ça, on peut se rendre à l'urgence, mettons, on niaise pas.
Ça, quelqu'un qui fait de la fièvre à 39-40, c'est rare qu'on dit vous devriez pas être ici. Habituellement, on est très heureux de voir les gens.
Élise, il y a un article qui est sorti dans les dernières heures. On l'a vu passer à la télé pas mal aussi. Le Québec qui affiche le taux de cancer le plus élevé du pays, mais la mortalité qui recule. Le taux de cancer plus élevé, j'imagine que c'est parce qu'on dépiste plus.
Bien, en fait, c'est super intéressant. La réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que, dans le fond, premièrement, je veux rassurer tout le monde, parce que là, moi, ça me buguait vraiment. Je suis allée lire l'article, je suis allée voir tous les chiffres de l'étude.
En partant, c'est la première fois qu'on a des chiffres un peu plus vérifiables pour le Québec.
Bon, bien, c'est un des enjeux, en fait, de l'étude. C'est qu'avant, comme dans toutes les bases de données en passant en santé, je ne sais pas pourquoi le Québec faisait ça, on ne participait jamais aux bases de données canadiennes. Moi, pour les urgences, entre autres...
Quand on s'était déjà séparés de ce côté-là.
Oui, exact. On était exclus. Et donc, c'est récent. Fait qu'une des hypothèses, c'est que c'est juste méthodologique. Quand je dis ça, ça veut dire que le fait qu'on n'était pas dans les bases de données depuis 20 ans, quand on regarde l'incidence et l'arrivée de nouveaux cancers, le Québec est vraiment au-dessus des autres provinces. Là, on se dit, c'est-tu vraiment ça ou c'est juste qu'on n'avait pas les chiffres avant? Puis là, c'est comme un faux positif. Là, on n'est pas certain. Fait que je veux juste rassurer, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de cancers au Québec qu'ailleurs au Canada pour l'instant.
C'est bien que tu le mentionnes parce que, tu sais, on dit 15 à 20 %. Ouais, on parle de 90 000 nouveaux cas par an au Québec. Là, tu te dis, tabarnouche, OK, on l'échappe.
C'est les chiffres quand ils nous disent, ah oui, mais tu sais, le taux de mortalité est plus bas, il y a plus de dépistage. Puis je pense à toutes nous autres qui n'avons pas de médecin de famille. Puis comme on repassera pour le dépistage.
Tout, tu sais.
C'est une des choses, en fait, quand on lit l'article, puis là, j'ai pris le temps d'analyser les programmes de dépistage dans chacune des provinces. C'est une des choses où, malheureusement, au Québec, on est en retard. On rattrape notre retard. C'est-à-dire que, tu sais, le programme de dépistage de cancer du sein est quand même bien développé. Il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on le commence plus tôt en 40 ans. Mais tu sais, ça fait longtemps que la direction de santé publique, là, vous recevez une lettre, vous allez passer votre mammographie, etc., etc. Mais cette structure-là de dépistage de cancer, elle n'existe pas pour les autres cancers. Puis au Canada, oui. Par exemple, le dépistage pour le cancer du col utérin, beaucoup mieux développé ailleurs. Le cancer colorectal, beaucoup mieux développé dans les autres provinces. Là, on commence, nous, à le faire. On est un petit peu en retard, puis avec le manque d'accès en première ligne, bien, ça aide pas, parce que même si vous allez vous faire dépister, si votre résultat est positif, il faut un suivi médical, puis c'est là où le danger, c'est de tomber entre deux craques de chaise.
Il y a des lignes dans cet article-là qui parlent, entre autres, de la hausse chez les jeunes. Est-ce que vous constatez vraiment une différence, mettons, chez les patients plus jeunes ou pas tant?
Il y a eu d'autres études qui ont été publiées dans les deux dernières années que j'ai vu passer, où effectivement, le taux d'incidence de cancer chez les moins de 50 ans est à la hausse pour beaucoup de types de cancers. Là. On pense sein, thyroïde, colon, name it. Là. Il y en a un petit peu plus. Là. C'est pas genre une augmentation de 1000 % mais légèrement. Puis pour l'instant, les scientifiques n'ont pas encore d'hypothèse de pourquoi. Parce que moi, une de mes hypothèses, c'est ben, t'sais, on meurt plus d'accidents, t'sais, on meurt plus de... Il y a plein de raisons pourquoi on n'a pas de... On ne décède plus de d'autres causes. Donc, veut pas, ben, on augmente le cancer. Mais non, ça, c'est réfuté. Mon hypothèse n'était pas bonne. Fait qu'on se demande, c'est-tu l'alimentation, c'est-tu l'environnement, c'est-tu les polluants, c'est-tu la bouffe qui est transformée. T'sais, là, pour l'instant, on est en mode questionnement. Puis la réponse va probablement être un petit peu de tout. T'sais, par exemple, cancer colorectal, on sait, viande rouge, produits transformés, ça augmente les risques. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on en voit plus en bas de 50 ans. Je pense que ça va être différentes réponses pour différents types de cancers.
La dernière chose qui titille un peu mon œil quand je lis cet article-là, c'est tout ce qui est lié au VPH.
Chez les plus jeunes, chez les plus jeunes hommes.
Ça a-tu rapport aussi avec tout ce qui est vaccination à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, les programmes de vaccination au Canada ont été introduits fin des années 2008, 2009, 2010. À peu près, le Québec, des fois on est en retard, mais on a été dans les premières provinces à le faire, mais chez les filles.
Pour rappeler aux plus vieux, c'est quoi le VPH? C'est-tu considéré comme une ITSS?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut pas, mettons, moi quand les gens viennent à l'urgence en me disant « j'ai eu une relation non protégée, j'ai peur d'avoir des ITSS », on teste pas le VPH. Donc c'est vraiment plus dans le dépistage du cancer qu'on va faire ça. Par contre, les condylomes, ça c'est une ITSS. Fait que le VPH, là, faut comprendre, c'est le virus du papillon humain. Puis, il existe plein de sortes de virus du papillon humain. Donc, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, ils sont par numéro. Il y a des VPH qui causent le cancer, il y a des VPH qui causent les condylomes. Puis les condylomes, c'est une ITSS. Pour ça, je dis encore une fois, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que le vaccin, maintenant, protège contre tout ça. Fait qu'en théorie, maintenant, nos enfants et nos petits garçons depuis 2016 sont vaccinés comme ça. Sauf qu'on est un petit peu à la remorque de. C'est-à-dire 2016, c'est assez récent là, comme début de vaccination. Ça fait 10 ans. Fait que bien évidemment, avec, entre autres, on le voit, là, toutes les ITSS sont en augmentation. Fait que c'est sûr qu'indirectement, ça l'a augmenté aussi au niveau des cancers.
Mais on dirait que les gens ont moins peur d'attraper le sida. Tu sais, je pense que la peur du sida, pour une certaine génération, ça nous a protégés contre les autres ITSS. Le condom était plus populaire.
Le VPH, on pensait qu'il y avait juste les filles qui pouvaient l'attraper aussi.
Oui, aussi. Hein? Puis nous, on est vraiment de la génération où, pour vrai, là, tu sais, comme tout le monde l'a eu, là, le VPH, là, c'était fou. Nous, on n'était pas encore vaccinés. Là, c'est vraiment bien maintenant qu'on vaccine. Moi, je fais partie des gens qui ont eu un cancer du col de l'utérus qui est d'origine d'un VPH. Je vois maintenant que les jeunes sont vaccinés. Tu sais, s'il y a des parents qui se posent la question « Ah, pourquoi je peux vacciner mon garçon, là? » C'est, honnêtement, là...
Tu l'as eu à quel âge, ton cancer?
Ça va faire 10 ans. Puis c'est pas mal le 10 ans jour pour jour. J'étais vraiment là-dedans en 2016. Moi, j'ai jamais eu de... Tu sais, personne ne m'a jamais dit « t'as le VPH » ou « j'ai jamais eu de condylome » ou quoi que ce soit. C'est vraiment par hasard que ça a été dépisté parce qu'à l'époque, j'avais un médecin de famille. Quel bonheur!
Le bon vieux temps!
J'avais fait une fausse couche. Et j'étais très triste. J'étais triste. Puis en plus, je me sentais coupable parce qu'il me semble que j'avais pas fait attention. Puis là, c'était le temps des fêtes. Puis j'avais bu du vin. Puis là, tu sais, je me culpabilisais au bout. Là, je me dis, je vais aller chez mon médecin voir si je suis effectivement plus enceinte, si tout est correct. Il dit, ah, je vais en profiter pour te faire un pap test. Puis il est revenu anormal. Puis j'avais effectivement un cancer. Mais tu sais, je serais pas retournée, moi, chez le médecin.
Tu l'aurais pas su.
Bien, il aurait avancé mon cancer parce que... T'sais, j'allais pas nécessairement voir mon médecin pour le fun à tout bout de champ non plus. Puis, il était stade 1. Ça a bien été, mais même un cancer de stade 1, là, j'ai été opérée deux fois. Et j'ai eu peur, j'ai souffert, ça a été beaucoup de douleur. Et je me dis, sérieusement, là, si par un petit vaccin, tu peux t'éviter ça. Et moi, on a même une ancienne collègue, plusieurs de mes amis et moi, là, qui est décédée d'un cancer lié au VPH il y a à peu près un an et demi. Tu sais, sérieusement, faites-vous vacciner, puis acceptez de faire vacciner vos enfants. C'est...
Même si vous êtes plus vieux, plus vieille, là,
Vous pouvez.
Il faut payer pour.
Ah, mais c'est un bon investissement.
Exactement. Puis, tu sais, pourquoi je parlais des garçons, c'est que dans les cancers qui sont ressortis, grande incidence cancer de la gorge chez les jeunes garçons qui seraient causés par le VPH. Fait que, tu sais, les gars, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Si vous êtes sexuellement actif, ça paraît pas. Il n'y a pas de symptômes. Vous n'en avez aucune espèce d'idée.
Puis c'est pas drôle, le cancer de la gorge. Là. J'ai un collègue qui a eu ça l'année passée. C'est pas drôle non plus. Donc, vraiment, là, le vaccin, c'est simple. Faites-le.
On a toujours l'impression que ça arrive aux autres. Moi, c'est ce qui me fascine. On se connaît. Puis, je sais, c'est pas une information que tu as écrit dans le front ou tu cries à qui veut bien l'entendre. Mais non. Je trouve que ça frappe quand tu l'entends de quelqu'un que tu connais.
Mais tu sais, c'est surtout qu'on entend dans le discours, on voudrait donc le remède contre le cancer, mais c'est un remède contre le cancer, le vaccin, là, je suis comme, c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est gratuit, là.
Ça peut aider.
On peut, c'est, je veux dire, donner ce cadeau-là à ses enfants,
exact.
ou on parle à des jeunes adultes aussi actuellement.
Ou
là,
à leur blonde, ou à leur chum.
Exactement, si vous ne l'avez pas, allez. Puis en fait, Véro, je pense que de plus en plus, ils élargissent la fourchette de gratuité. Donc, informez-vous, parce qu'effectivement, ça peut être disponible et gratuit. Puis encore une fois, comme tu disais, c'est une façon de ne pas avoir le cancer. Puis oui, j'ai vu des catastrophes de cancer, de femmes qui n'allaient pas faire leur pap test, tu sais, qui se disaient, tu sais, j'ai pas de symptômes, tout va bien, puis qui se ramassaient avec des catastrophes. Puis l'autre chose, c'est que ça s'est amélioré côté dépistage, parce qu'avant, c'était le pap test avec la petite barre de bois, on l'a toute vue, là. Puis là, c'est pour ça qu'on savait pas, ça s'appelait pas VPH. C'est qu'on faisait le pap test, on trouvait des cellules anormales, puis là, on analysait. Mais maintenant, les nouveaux tests de dépistage, c'est aussi, ça a été introduit il y a environ 3 ans. C'est le VPH qu'on va aller tester, parce que si on voit que vous êtes porteuse, là, on va changer complètement la façon qu'on va vous suivre par la suite. Fait que, on s'améliore côté dépistage, on s'améliore côté traitement. Il y a des bonnes nouvelles dans cette étude-là. Hein. Il y a de plus en plus de survivants. Moi, j'ai été sur des comités, entre autres, où là, c'est un heureux problème. C'est qu'on a tellement de survivants de cancer, puis c'est une lourdeur, entre guillemets, pour le système. Parce que, tu sais, un patient qui est en rémission, tu sais, à 5 ans, il faut y faire ses scans, etc., etc., pour tout type de cancer. Mais là, tout ça augmente. J'ai vu des patients avoir eu 5 cancers dans leur vie, puis là, il faut qu'il y ait plein de suivis différents. Fait que c'est une complexité pour le système, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. On voit que la médecine s'améliore. Il n'y a pas encore la recette magique de tous les cancers, mais il y a quand même vraiment des... Entre autres, là, dans l'étude, on parlait de la leucémie, qui est un cancer qui est très curable maintenant. La majorité des gens vont s'en sortir. Ça ne doit pas plus être le fun de se faire annoncer qu'on a la leucémie, on s'entend.
Mais c'est plus encourageant, maintenant.
Au moins, on sait que la grande majorité vont être atteints. Fait que c'est... c'est mitigé comme étude. Je pense que c'est important, on sensibilise encore les gens d'aller se faire dépister. Tu me disais quand on préparait la chronique, c'est quoi les symptômes pour un cancer?
Oui, mais je vois
lire une question.
Il y a une question que je trouve vraiment pertinente, en fait. Comment on peut faire pour savoir notre statut de vaccination? J'ai 50 ans et j'ai aucune idée des vaccins que j'ai reçus dans ma vie.
Si vous vous carnet Santé Québec, là, le truc qu'il faut que je fasse sur ma to-do puis que je n'ai pas fait encore, les carnets de vaccination sont disponibles. Puis maintenant, en fait, tout votre carnet de vaccination est en ligne pour une infirmière de CLSC. Fait que si, mettons, vous n'êtes pas sur carnet Santé ou vous... L'infirmière, moi, quand je suis allée au Jean Coutu pour mes vaccins de voyage l'année passée, elle avait tout mon pedigree et était capable de me dire qu'est-ce que j'avais reçu quand.
Même les affaires que tu as eues quand tu étais super jeune, oui, là, parce que c'était un carnet physique avant.
C'est
là.
Ce qui est fascinant, ils l'ont toutes mis. Des fois, il y a des réussites informatiques,
oui,
qu'on va
dire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je te le jure, tout est noté. Ouais.
Ah oui. Dernière question d'auditeur par rapport à ça, avant de passer à notre sujet sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut se refaire vacciner? Qu'est-ce que je fais? Je suis justement en rémission.
En rémission d'un cancer?
Bien, de ce que je comprends.
Vraisemblablement. En fait, c'est super intéressant. Il y a certaines personnes, entre autres les transplantés, les gens, parce que là, transplanté, là, t'as un organe de quelqu'un d'autre, là, fait qu'on baisse ton système immunitaire. Effectivement, c'est une excellente question. Souvent, les infirmières d'oncologie le savent. Ils vont être capables de dire, ah oui, ça, va falloir aller le rechercher. Puis, entre autres, ça, c'est le genre d'affaires, malheureusement, c'est une science qui évolue. Entre autres, tétanos, on disait 10 ans. Maintenant, on dit que ça peut être 20 ans. Puis là, ça change en fonction de votre risque. C'est le genre de choses où ça prend vraiment un professionnel. Mais il y a des infirmières spécialisées en vaccination qui peuvent répondre à votre question.
Je ne sais pas si la dame a eu un cancer du col, mais sachez que même si vous avez eu un cancer, vous pouvez vous faire vacciner jamais trop tard pour se faire vacciner contre le VPH.
Il y a d'autres souches,
oui. Oui, c'est un excellent point.
On termine avec un sujet, j'allais dire un peu plus jojo, mais là, ça dépend de votre peur de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais quand on parle d'IA en santé? Parce qu'on voit toutes sortes d'affaires. Puis là, je vais nous ramener, mettons, sur le plancher des vaches. Là. Bon, je sais que c'est pas la série sur laquelle il faut se fier niveau médecine, Élise, là. Mais dans un stat, il y a un docteur qui s'était mis à bien gros utiliser l'intelligence artificielle pour diagnostiquer ses patients, puis pour voir à quel point ça fonctionne, puis à quel point il est capable de s'en servir. C'est quoi les dangers, je vais dire, associés à ça, ou les bons coups qu'on peut faire de l'autre côté quand on parle d'IA en santé?
En fait, on ouvre une boîte, puis probablement qu'on va continuer à fouiller dedans dans une prochaine chronique, parce que c'est un sujet qui me passionne. Puis, comme dans tout, il y a du bon puis du pas bon. Et là, je t'avais nommé plus les choses qui étaient pas bonnes, mais il y a des choses bonnes. Par exemple, je voyais entre autres là, des petits articles dans des journaux, là, genre New York Times ou whatever, où une personne avait des symptômes très atypiques, un peu flous, puis le ChatGPT a dit « Ah, ça doit être tel type de maladie », puis finalement, c'était ça. Puis là, des comme crime avait vu 8 docteurs, tout le monde y avait dit que c'était dans sa tête, mais finalement, elle avait quelque chose de très rare, ce qui fait que un médecin a un biais cognitif comme n'importe quel médecin. Nous, en plus, on est entraînés à reconnaître des patterns. Mm-hmm. C'est comme ça qu'on fonctionne. Fait que si t'es dans la boîte, dans le fin fond du 1 sur 1 million, ça se peut que je reconnaisse pas ton pattern parce que je l'ai juste pas appris.
Mais c'est-tu insultant pour un médecin de se faire dire « J'ai demandé à ChatGPT, je veux pas te contredire, mais voici ce qu'on me sort comme symptôme. »
Ben, en fait, pas du tout. Parce que je vais parler pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui s'insultent, mais moi, au contraire, si vous avez eu la rigueur d'essayer de comprendre votre maladie, puis je suis comme contente que vous me le dites. Puis moi, de plus en plus, maintenant, je pose la question, avez-vous vérifié sur Internet? Avez-vous regardé ChatGPT? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Puis là, des gens sont comme un peu gênés. Des fois, comme, ah oui, il m'a dit telle affaire. Puis je suis comme, oh, c'est drôle. Des fois, ça fait pas de sens. Là. Mais des fois, je suis comme, ah ben crème, c'est intéressant. On va en parler, puis on va vérifier telle chose. Parce que ça explique une partie des consultations à l'urgence. C'est anxiogène, là, si ChatGPT dit que tu as le cancer ou je sais pas quoi, là, c'est sûr que tu vas venir cogner à ma porte, puis c'est normal.
Les dangers associés à tout ce qui est agent conversationnel. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup jasé, surtout en frais de santé mentale. Il en pleut même sur les plateformes de réseaux sociaux comme les Snapchat de ce monde pour aider, entre autres, les jeunes à se confier des périodes difficiles. Comment vous jouez avec ça?
Une des choses que j'ai lues il y a quelques années, qui est un excellent bouquin sur justement l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça, c'est un cardiologue qui l'a écrit, mais le chapitre sur la santé mentale était très intéressant, puis c'est une étude qui m'a marquée. Il disait que quand on regardait les gens qui avaient des diagnostics de santé mentale, schizophrénie, dépression, maladie bipolaire, 60 % d'entre eux préféraient se confier à une intelligence artificielle qu'à un humain parce qu'ils étaient
moins jugement.
Exactement. Mmh. Ouais. Moins jugés, moins stigmatisés. Fait que c'est pour ça, entre autres, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont préférer se confier à une machine qu'à un humain.
Il y a le principe aussi de choisir le moment où tu veux le faire.
Exactement. Mmh. Tu peux le faire à 3 h du matin. Le 3 h du matin, ça se peut que je te jase pas tant que ça à l'urgence, ça va pas bien, même si, en tout respect, je suis tout seul dans mon hôpital. Ce qui fait que le problème, c'est que les ChatGPT de ce monde et tout ça n'ont pas été créés pour ça. Et il est là le danger. Si vous utilisez, entre autres, je parle de ChatGPT, mais Claude est différent, mais n'importe quel agent conversationnel, il est souvent conçu pour vous renforcer, entre autres, parfois. Ah, oh, vous avez raison, telle affaire. Puis,
tellement.
Ah, oh, oh, merci de ta remarque. Une chance que. Puis là, il vous renforce dans votre position. Ça peut créer une chambre d'écho. On a vu, entre autres, avec la tuerie qu'il y a eu en Colombie-Britannique, ouais. Le fait, entre autres,
des flaques qui n'ont pas été élevées.
Exactement, hein? OpenAI. Fait que c'est une méchante boîte de Pandore. Puis c'est quand je dis qu'il y a du bon puis qu'il y a du pas bon.
Faut
c'est
être conscient.
On sait qu'il y a un besoin, mais là, les outils sont pas créés pour répondre à ces besoins-là.
Je veux qu'on termine, Élise, en parlant d'une étude où ils ont tenté de faire trier des patients par l'intelligence artificielle, puis ça s'est planté 50 % du temps. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a l'impression... Ça pourrait aider vite de même, on dirait le triage, tu sais. Mais là, on dirait qu'une étude comme ça, moi, tu vois, ça me fait comme reculer sur ma pensée.
Bien, moi, j'ai une grande crainte, puis c'est ça, j'ai un biais parce que moi, je suis en première ligne. OpenAI, encore, la compagnie qui est propriétaire de ChatGPT, sont toutes les Facebook, Meta de ce monde. C'est la course à qui va avoir le meilleur docteur d'intelligence artificielle, les meilleurs outils en intelligence artificielle en santé. OpenAI a créé un outil pour faire du triage. Donc, les patients devaient répondre à des questions, puis l'intelligence artificielle devait donner un diagnostic présomptif ou une orientation. Aller à l'urgence, aller à votre bureau médecin de famille. Elle s'est plantée une fois sur deux, non seulement sur le diagnostic, mais sur la dangerosité. Fait qu'entre autres, encore une fois, les idées suicidaires, elles étaient pourries pour être capable de les diagnostiquer et de les repérer. Fait que souvent, elle les cernait pas. Certains types de douleurs n'étaient pas capables de voir que c'était dangereux, que la personne devait aller à l'urgence. Elle lui disait de rester à la maison puis de boire de l'eau. Fait que je veux juste vous aviser, faites attention. On n'est pas encore rendu. Moi, j'y crois. Je pense qu'on va développer des
ça
choses.
Ça ne décourage pas?
Pas en tout.
OK.
Moi, je pense que ça va être complémentaire. Puis on peut pas être dans une province où on a tant de problèmes d'accès puis se dire qu'on va pas essayer de trouver des bons outils. Il faut juste les bons outils puis les évaluer.
J'ai l'impression, Élise, qu'on va avoir le temps de s'en jaser en masse d'intelligence artificielle et de santé.
Certainement.
Toujours un plaisir que tu viennes nous voir. Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue. Vous avez envie de réentendre cette chronique-là. BLVD.fm. Au retour de la pause, on jase Canadien Flyers parce qu'il y a un match ce soir. Ça change-tu vraiment quelque chose parce qu'on sait que le Canadien va affronter le Lightning en série? À voir, Max Larouche va nous en jaser dans quelques minutes. Gravel.